Europe 1.
10h, 11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Bonjour à tous et bienvenue à vous au grand rendez-vous. Bonjour François Bayrou.
Bonjour.
C'est justement votre grand rendez-vous ce dimanche. Patron du Modem, haut commissaire au plan, secrétaire général du Conseil national de la refondation et proche du président. Tandis que la crise énergétique s'installe et s'amplifie, comment éviter, selon vous, l'étincelle sociale ? L'hiver pourrait être électrique pour Emmanuel Macron qui ne compte pas renoncer à sa réforme des retraites, malgré de nombreuses mises en garde, dont la vôtre ce matin dans Le Parisien. Le tout, François Bayrou, dans un contexte politique européen électrisé par la victoire de l'Union des droites en Suède. Alors, pour vous interroger sur tous ces sujets, je suis entourée de mes camarades. Nicolas Barré des Échos, bonjour à vous Nicolas.
Bonjour Sonia.
Et bien sûr, le penseur et sociologue Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
François Bayrou, tout d'abord, c'est la réforme de tous les dangers. Elle est communément appelée la mère des batailles. Dans Le Parisien ce matin, vous alertez sur le risque d'un passage en force sur la réforme des retraites. Bruno Le Maire vous a répondu qu'ils iront jusqu'au bout, au bout des compromis. Vous restez sceptique ce matin ?
Non, pas du tout. Je trouve que ces affirmations du gouvernement ce matin vont dans le bon sens. De quoi s'agit-il ? La réforme des retraites est vitale. Elle est une nécessité pour le pays. Mais si l'on veut que la réforme des retraites prenne tout son sens et qu'elle soit acceptée, bien, il faut la conduire selon une méthode que le président de la République a présentée à l'élection présidentielle. C'est même l'engagement majeur qui a été le sien. On va renoncer aux réformes qui tombent d'en haut toutes faites et on va, c'est notamment le sens du Conseil national de la refondation, on va faire mûrir ces réformes avec toutes les forces économiques et sociales.
Avec qui, quand la plupart n'en veulent pas ?
Société. Alors, je suis en désaccord avec vous.
Ah bon ? Dites-nous pourquoi.
Écoute. Moi, je pense que la société française est prête pour cette réforme. Je pense que une grande majorité des Français pense, au fond de lui-même, qu'il va falloir, en effet, pour équilibrer les retraites, travailler plus longtemps. Simplement, beaucoup d'entre eux n'ont pas entre les mains les raisons pour lesquelles il va falloir faire cette réforme. On entend des messages dans tous les sens qui disent « c'est pas nécessaire ». Des messages, y compris des autorités qui disent « mais non, c'est équilibré, on n'a pas besoin, enfin, c'est
là,
pas urgent ».
Le Conseil d'orientation des retraites vient de dire qu'on en aurait pour 25 ans de déficit si on fait rien.
Le Conseil d'orientation des retraites a dit ça hier. Ouais. Et comme vous savez, sur les trois dernières années, ils avaient assez souvent dit que c'était équilibré sur le moyen terme. Et comme vous savez, vous avez écrit 15 papiers là-dessus. Donc, et moi, je pense qu'il y a la nécessité de réunir toutes ces forces pour que, et c'est le deuxième enjeu, pas seulement pour réussir la réforme des retraites, c'est pour que naisse en France une méthode qui permettent que les sujets traités ne soient pas toujours conflictuels, ne soient pas toujours dans l'affrontement, ne soient pas toujours dans la déchirure systématique du pays. Et c'est pourquoi le président de la République a créé le Conseil national de la refondation qu'il m'a confié. Et vous voyez bien la contradiction.
La plupart des syndicats n'y étaient pas.
Pas du tout.
Où est le début de la méthode ?
Pas du tout. Pourquoi vous pouvez dire ça ? La CFDT était là. C'est pas le moindre des syndicats français. Jusqu'à maintenant, c'est même celui qui est le plus important.
Mais la CGC n'y est
L'UNSA était là.
La CGT non plus.
Et la CFTC était là.
On peut parler du verre à moitié vide ?
Non, pas du tout. Parce ce qui me semble nécessaire de voir, c'est qu'il existe en France un grand courant réformiste, social réformiste, qui est prêt à avancer sans renier du tout ses positions. Et il n'y a aucune raison que qui que ce soit renie ses positions, mais qui est prêt à avancer pour que le pays, lucidement, soit capable de s'organiser comme les temps l'exigent. Voilà. Or, ce courant réformiste-là, si on choisit une méthode, on va dire, brutale, ex abrupto, comme on aurait dit en latin, si on choisit cette méthode-là, ce courant réformiste va entrer en contradiction, en confrontation, en opposition avec les responsables du pays. Est-ce qu'on a besoin de ça? On a besoin du contraire.
Le courant réformiste existe, vous le mentionnez, il est très présent, c'est la majorité à l'Assemblée. Mais il existe d'autres courants, on peut penser à la NUPES, on peut penser au Rassemblement National. Donc là, le pays réellement, il ne tient pas seulement dans ce courant réformiste, il est divisé.
Bien sûr, mais
de ce point de vue, est-ce que l'espace du débat, ce n'est pas l'Assemblée bien davantage qu'une alter-Assemblée que serait votre CNR?
D'abord, ce n'est pas mon CNR, c'est celui du président de la République, si vous permettez.
Bien sûr.
Bon. Vous venez d'avancer l'argument majeur dans le sens de ce que je dis. Vous avez en effet, allez, deux pôles extrêmes, gauche et droite, qui sont, sur ce sujet en particulier, en radicale opposition avec les responsables du pays. En radicale opposition. Ils disent même qu'ils veulent revenir à la retraite à 60 ans, sans condition. Et vous avez ce que vous avez vous-même avalisé comme courant réformiste. Et ce courant réformiste, si jamais on n'a pas la bonne démarche, il va être perdu pour les réformes.
Mais quel risque pour le pays? On a compris que si pour vous le courant réformiste ne passe pas, la France aura du retard. Mais quel est le risque? Est-ce qu'il y a un risque social? Est-ce que vous dites attention ce matin, si vous utilisez le 49-3, si vous ne trouvez pas la bonne méthode cette fois-ci, eh bien le risque...
Je n'ai pas dit ça du tout. Je pense qu'il y a une probabilité certaine pour qu'au bout du chemin, on doive utiliser un instrument institutionnel comme le 49-3. Peut-être on peut l'éviter, mais il n'y a rien d'infamant à utiliser le 49-3. Ce qui n'est pas normal, c'est utiliser le 49-3 sans la préparation nécessaire pour le texte. Beaucoup de Français ont au fond d'eux-mêmes l'idée que oui, c'est un sujet, mais ne savent ni pourquoi, ni comment, ni pour quel montant. La préparation n'a pas été faite. La préparation, pas seulement auprès des partenaires sociaux. Je me suis laissé dire que même le patronat, mais vous allez pouvoir, Nicolas Barré, le confirmer, même le patronat n'est pas chaud. Il faut faire cette préparation. Il faut adopter la démarche que le président de la République...
Une campagne présidentielle. Que ne l'a-t-il pas fait, Emmanuel Macron? Pourquoi tout ce temps perdu et venir aujourd'hui, à quelques mois de cette réforme des retraites si importante, et l'expliquer maintenant?
La réforme des retraites, comprenons-nous bien, ça n'est pas pour les mois qui viennent. Le président de la République a dit « Je voudrais que ce soit en place dans l'été 2023 ». Et moi, je dis « On peut parfaitement arriver à adopter le texte avant ou au début de l'été 2023.
Et vous dites qu'il faut une réforme brutale, mais qui parle de réforme brutale? Vous avez l'air de sous-entendre que l'Élysée veut brutaliser les choses, c'est ça?
Les échos qu'on a et que vous avez...
Vous avez plus que des échos de votre côté, quand même. Vous avez l'oreille du président.
Et que vous avez, c'est que on avait imaginé de passer cette réforme par un amendement quasi subreptice au projet de loi de financement, au projet de financement de la loi de sécurité sociale, ce qu'on appelle le PLFSS. C'est pas comme ça qu'on fait une grande réforme pour un pays. Pourquoi? Parce que la question des retraites, c'est pas seulement la question d'un déplacement magique et choquant pour beaucoup de l'âge du départ à la retraite. Il y a beaucoup d'autres sujets. C'est pas la même chose d'arriver à l'âge du départ à la retraite épuisé par une vie professionnelle très, 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 très lourde. Je pense à ça chaque fois que je vois les hommes qui bitument les trottoirs à Paris avec une taloche et des seaux de goudron à genoux dans le goudron. Bon, probablement, à l'âge de 65 ans, ils ne seront pas dans le même état que ceux qui ont eu des vies plus préservées. Il y a des gens qui sont épuisés nerveusement. Il y a des gens qui sont en pleine forme. Et ce que je crois, c'est que on peut, par l'incitation et peut-être aussi par une accélération de la réforme Touraine, comme on appelle, qui a créé la situation actuelle, des incitations, de la souplesse. Parce que l'idéal, pour moi, qui plaide pour la réforme par points depuis 20 ans, L'idéal pour moi, c'est que chacun puisse choisir son départ à la retraite. Le départ choisi. Et si on arrive à allonger le temps de travail volontairement, bon. Alors, y compris avec des incitations, avec des incitations, alors je pense qu'on aura fait deux choses. Oui. On aura rééquilibré les retraites et on aura montré qu'on pouvait réformer différemment. Et le deuxième enjeu est pour moi aussi important que le premier.
J'y reviens parce que ça me semble central. Vous nous dites fondamentalement les Français comprennent que la réforme des retraites est nécessaire, se reconnaissent avec des nuances dans le projet que vous proposez. Doit-on comprendre que le CNR est finalement plus représentatif de la nation que l'Assemblée nationale?
Non,
Conseil
en rien,
national de la refondation.
En rien, et ça n'est pas le même rôle. Le CNR, c'est quoi?
C'est un machin, c'est, un bidule, disent
c'est
certains.
C'est l'idée.
François Bayrou, un machin, disent certains.
Oui, disent certains. Bah oui. C'est l'ONU aussi, disait le général.
Oui, ben justement. Bon. Est-ce qu'il avait tort, le général?
Et on ne peut pas s'en passer. Donc, je reviens à la question. Le CNR, c'est l'idée qu'il y a dans le pays des forces, des courants de pensée qui ont le droit et le devoir d'être représentés dans la réflexion sur les grandes questions que nous allons devoir traiter. Nous entrons dans une crise qui, pour moi, va être une crise historique, mondiale, planétaire, avec des rééquilibrages qu'on n'imagine même pas, des problèmes nombreux en Chine, parce que la démographie va créer des conditions pour le pays totalement inédites. Ils vont perdre 500 millions d'habitants. 500 millions.
Quel rapport avec le Conseil national de la refondation ?
Exactement tous les rapports. Les États-Unis sont dans une crise sociale et sociologique de violence incroyable. Et en Europe, l'Allemagne, qui était la locomotive, s'est mise, comme on sait, entre les mains de Poutine. Tout ceci crée une situation de crise historique, séculaire, mondiale, devant laquelle la France aurait beaucoup d'atouts, mais elle a devant elle des problèmes insolubles depuis longtemps. L'éducation nationale est un problème insoluble.
Ne les énumérez pas tous.
Le travail est un problème pour l'instant très difficile à résoudre. Et on a besoin de réfléchir à tout ça avec les forces vives du pays.
On va marquer une courte pause et nous dire comment réfléchir, parce qu'évidemment vous avez cité tous les problèmes. Le premier étant le défi énergétique. Et on va vous poser la question, vous qui avez beaucoup travaillé sur le nucléaire, comment est-ce qu'on en est arrivé là en France? Une courte pause et on se retrouve en direct.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Et merci à vous d'être avec nous, avec nos camarades Mathieu Bock-Côté, Nicolas Barré, notre invité ce dimanche, François Bayrou. Beaucoup de questions à lui poser, notamment sur le nucléaire. Et vous vous posez certainement cette question, comment en est-on arrivé là en France? Mais tout d'abord, François Bayrou, bouclier tarifaire pour 2023, chèque énergie exceptionnel pour les foyers les plus modestes. Le gouvernement craint l'étincelle sociale et tente de protéger au maximum, fort heureusement. Mais est-ce que le risque de cette étincelle est bien réel ? Sur un sujet aussi sensible.
En tout cas, vous voyez bien que c'est une des menaces les plus importantes que nous ayons devant nous, que la crise énergétique fasse qu'il y ait des coupures de courant, fasse qu'il y ait du blackout, comme ça, comme on dit en franglais, par manque de production énergétique. Et essayer de pallier ces difficultés par des centrales à charbon. Alors, c'est aller exactement à l'encontre de tout le mouvement qu'on a défini. Et c'est précisément dans ce drame qu'est l'Allemagne. La décision dramatique, je crois, des Allemands, du gouvernement allemand, de fermer toutes les centrales nucléaires, a placé l'Allemagne dans la dépendance de la Russie et de Poutine. Alors, comme vous savez, il y a beaucoup de dirigeants allemands qui ont fait en sorte ou favorisé cette dépendance parce qu'ils étaient eux-mêmes stipendiés par les Russes.
Quand on compare, on se console par rapport à l'Allemagne, mais quand on regarde notre situation, certes un peu différente, on n'est pas mieux. C'est la question, François Bayrou. Vous avez, en tant que haut commissaire au plan, rédigé un rapport sur le nucléaire qui était très fourni. On vous a reçu ici même le matin sur Europe 1 Pourquoi vous n'avez pas été entendu plus tôt par le président? Pourquoi ce sursaut n'a pas eu lieu plus tôt?
Alors, ce n'est pas par le président, c'est par la totalité des responsables exécutifs français au travers des dernières décennies. Je dis une phrase un peu bizarre. Ce n'est pas les gouvernants qui gouvernent les pays. C'est les opinions publiques qui gouvernent les pays.
Pourquoi l'opinion était contre le nucléaire?
L'opinion française contre le nucléaire.
Mais qui lui a mis ça dans la tête?
Comment expliquer cette espèce d'hypnose?
Vous voulez bien que j'aille jusqu'au bout? Tout le monde était contre le nucléaire. Toutes les forces politiques, moi pas en tout cas, mais jamais, puisque j'ai toujours pensé
ni
le
vous,
contraire.
Ni la droite, la ni droite, beaucoup
ni
de
la droite,
Nicolas Sarkozy, vous le savez bien.
Ni la droite à moitié. Moi, j'ai toujours pensé que c'était la seule énergie qui ne soit pas émettrice de gaz à effet de serre. Et si l'on considère que le drame climatique est causé, ou sinon causé, du moins accéléré, par les émissions de gaz à effet de serre, alors ça dicte une priorité. Mais l'opinion était très contre, notamment à partir de Fukushima, ou relancé par Fukushima. Il était dans l'idée de toutes les forces politiques qu'on allait baisser...
C'est quand même incroyable ce que vous dites.
Il y a un certain nombre de responsables politiques...
À quoi servent les gouvernants s'ils suivent l'opinion ?
Il y a un certain nombre de responsables politiques, vous en avez un devant vous, qui ne suit pas ce genre de tourance. Depuis très longtemps, et sur tous les sujets, sur la dette, sur le nucléaire, sur d'autres sujets, sur la nationalisation des autoroutes, sur la privatisation de EDF, sur tous ces sujets, ma position était différente de celle des gouvernants. Bien sûr, les gouvernants, c'est l'opinion publique qui fait les élections.
Mais parmi les gouvernants préparent les élections. Il a eu tort sur le nucléaire pendant
c'est pas l'opinion française qui a fermé
le deuxième. Je pense
qu'il était prudent, et c'est dans son premier quinquennat qu'il a fait cette relance. Et il est vrai que le rapport que vous avez cité, c'était décidé par le gouvernement précédent.
Il aurait pu l'arrêter.
Et ça a été exécuté par son gouvernement. Tout ça. La vérité, si... Enfin,
oh, ça va. Pourquoi si l'on cherche... Pourquoi ne pas reconnaître une erreur pour avancer dans notre pays? Pourquoi ne pas reconnaître que la fermeture de Fessenheim était une erreur?
Il y a des gens qui adorent se flageller.
Non, c'est mieux
et il se trouve que moi, j'ai toujours été sur l'autre ligne.
Mais diriez-vous que dans la classe politique, il y avait une adhésion nucléaire, mais qui ne pouvait pas être avouée ou reconnue parce que l'opinion, animée par quelques lobbies, était trop forte?
Hélas, non. Je voudrais bien que ce soit vrai, mais... L'idée s'était introduite dans les esprits, notamment à partir de Fukushima, qu'il fallait baisser la part du nucléaire dans ce qu'on appelle le mix énergétique. Et au fond, tous les grands courants du pays, constitués, poussés par l'opinion ou pressés par l'opinion, étaient sur cette ligne. Et le président de la République a changé d'avis à partir du moment, sa position. Et heureusement, il a bien fait de prendre cette nouvelle orientation qui engage beaucoup l'avenir du pays parce qu'il va falloir des dizaines de milliards d'investissements pour rendre à la France sa place de leader en matière du nucléaire.
Notre objectif ce matin n'est pas de pointer des responsabilités. On veut tous que notre pays s'en sorte. La question, c'est que malgré tout, François Hollande a donc acté de la fermeture de Fessenheim. Emmanuel Macron a signé. Il avait comme ministre un certain Nicolas Hulot, dont je me souviens qu'il avait dit sur cette antenne et d'autres, le nucléaire n'est pas une énergie d'avenir. Quand on choisit un tel ministre aussi emblématique, quel signal donne-t-on soi-même à l'opinion?
Encore une fois, vous auriez fait une enquête à cette époque, les gens vous auraient dit la même chose. Parce que Fukushima, c'était des images tellement spectaculaires. Je rappelle, Fukushima, ce n'était pas un accident nucléaire. Hein. C'est un tsunami qui a tout d'un coup mis en panne, en difficulté, en grosse difficulté, les centrales japonaises. Les Japonais ont décidé depuis de reconstruire des centrales nucléaires. Parce que tous les pays du monde ont compris que si vraiment la crise climatique était un sujet d'urgence, il n'y avait qu'une réponse efficace, c'était celle-là. Et donc, Emmanuel Macron a pris une décision très courageuse d'investissement très important, de plusieurs tranches des nouvelles usines de production.
Vous savez combien il faut de temps, puisque vous avez travaillé sur ce sujet, pour... Ah ben oui. Alors, combien de temps pour construire une centrale, pour obtenir les autorisations, pour passer toute l'administration?
On dit 2035 pour la première. 2035, ce n'est pas dans très longtemps. La première condition, c'est de remettre en état de marche, en état de service, les centrales que nous avons. Et nous avons plusieurs dizaines de centrales, 56, 60, dont aujourd'hui une trentaine sont en réfection parce qu'on a découvert une faiblesse dans les tuyaux d'inox qui permettent d'amener de l'eau de refroidissement. Et on a découvert qu'il y avait des fissures dans ces tuyaux. Et comme on a monté les standards de sécurité, et d'une certaine manière, on peut dire que quand même, c'est utile, les standards de sécurité nouveaux se sont appliqués et obligent à réparer les tuyaux d'alimentation du refroidissement. Mais c'est pas du nucléaire, c'est du refroidissement.
On voit bien, là, aujourd'hui, il y a une situation d'urgence. EDF traverse une crise monumentale.
Pas depuis aujourd'hui.
Le gouvernement a annoncé début juillet le remplacement de son patron. On n'a toujours pas de nouveau patron chez EDF. Comment, alors, si c'est vraiment une situation d'urgence,
peut-être
comment est-ce que vous
l'expliquez? Peut-être que le poste n'est pas si attractif que cela après tout ce qui s'est passé.
Ben, il y a eu beaucoup de crises internes à EDF. Personne ne le dit. Hein. Le directeur financier démissionné il y a deux ans parce qu'il ne voulait pas assumer la situation. Mais comme toujours en France, c'est loin de l'opinion. Et comme ce sont les sujets d'opinion à laquelle vous participez, opinion, vous êtes d'une certaine manière des noyaux actifs de l'opinion.
Un peu trop de le dire, mais l'opinion qui nous regarde ce matin, François Perrault, elle se dit, en vous écoutant, on a démantelé le nucléaire en France, on souscrit au marché européen qui aligne le prix de l'électricité et du gaz, tous les gouvernants ont fait ça, et aujourd'hui on nous demande de prendre moins de douches, de baisser le chauffage, est-ce que ce n'est pas un peu fort de café? Mais c'est vrai, ce sont des choix des gouvernements qu'aujourd'hui les populations portent.
Ce sont des choix des gouvernements choisis par les électeurs, sous la pression des grandes évolutions de l'opinion publique, auxquelles, il faut bien le dire, vous participez.
C'est quand même une inversion de responsabilité, c'est fort ce matin.
Non, ça n'est pas une inversion. Ma vision est que nous sommes tous co-responsables des situations que nous décrivons comme insupportable, cataclysmique.
Mais les Français sont attachés à l'atome depuis longtemps. Moi, j'ai le souvenir de sondages depuis plusieurs années où ils étaient attachés à cela.
Non. Je crois que c'est faux. C'est factuellement faux. Les Français sont de nouveau attachés à l'énergie nucléaire. J'ai vu un sondage, 80%.
Exactement, dans le journal du dimanche.
La légitimité du nucléaire n'est pas contestée.
N'est plus contestée. Elle était, Nicolas Barré, toute elle était contestée. On fait comme si on avait une mémoire de poisson rouge. Nous avons vécu un temps où toute l'opinion, sous des pressions diverses de mouvements politiques, de leaders d'opinion, vous en avez cité, toute l'opinion publique avait glissé contre le nucléaire.
Mais où est le courage politique? Mais voilà. Où est la volonté alors?
Ce qu'on attend d'un leader, c'est quand même parfois de
prendre position. Choisissez des leaders qui ont depuis longtemps défendu cette thèse.
Mais si je peux me permettre, d'ici la relance du nucléaire, pénurie, rationnement, blackout, inévitable?
Non, je crois que ça n'est pas inévitable. Je pense qu'il y a des solutions qu'on va en trouver. J'en ai même quelques-unes en tête. Je pense qu'il y a des solutions pour rééquilibrer la dépendance énergétique devant laquelle nous allons être. Si vous voulez que j'en cite une, j'en ai parlé avec le président de la République, j'en cite une. Nous avions à Pau le gisement de gaz de Lacq qui a été arrêté. Ça vaudrait le coup d'aller voir si par hasard les pressions n'ont pas remonté dans le gisement et si par hasard on ne pourrait pas se servir du gisement résiduel pour pendant quelques années rendre un équilibre à la production énergétique française.
On va continuer à en parler. Très intéressant ce que vous avez dit sur le nucléaire. Si on a suivi l'opinion sur le nucléaire, pourquoi ne l'a-t-on pas suivi sur d'autres sujets comme l'immigration? C'est la question qu'on va vous poser dans quelques instants sur Europe 1 et CNews. À tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Du gaz russe, c'est pas tout à fait rien.
François Bayrou, pendant la pause aussi, on continue évoqué évidemment le nucléaire, l'énergie, on va passer à un autre sujet, mais finalement dans la méthode, on vous pose la question parce que vous avez dit, François Bayrou, que les choix parfois des gouvernements sont dictés, en tous les cas peut-être poussés et nourris par le choix des opinions sur le nucléaire. Pourquoi ne le sont-ils pas sur l'immigration? Sondage après sondage, les Français, d'ailleurs, quelle que soit leur croyance politique, sont pour une maîtrise de l'immigration, sont pour faire de ce sujet une priorité, avec évidemment le pouvoir d'achat. Pourquoi ne les a-t-on pas davantage écoutés là-dessus?
Il n'y a pas un homme politique français qui ne pourrait reprendre à son compte les mots que vous avez utilisés. Mais entre les mots et la réalité, il y a un certain nombre d'obstacles. Alors je vais vous dire ce que moi je crois de tout ça, et que j'ai souvent écrit dans des livres. Les peuples ont droit à des garanties sur leur identité. Les peuples sont attachés, comme chacun d'entre nous le sommes, au caractère, aux convictions, au mode d'être, au mode de vie, qui font que la France est la France, la Suisse est la Suisse, le Canada est le Canada, l'Italie est l'Italie. Et il y a cette... au fond, cette crainte, du sentiment populaire que ce sont ces signes-là d'existence, d'identité, qui sont menacés parce que on ne fait pas attention au glissement. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a d'énormes difficultés. La principale de ces difficultés, c'est que lorsqu'on songe à renvoyer des personnes qui sont sur le territoire national sans droit d'y être, les pays d'origine ne veulent pas les reprendre.
Mais je reprendrai, vous avez utilisé une formule très importante, je crois, vous parlez du droit qu'ont les peuples de voir respecter leur identité, des garanties. Est-ce que ce droit a été piétiné ces dernières décennies?
En tout cas, on n'y a pas fait suffisamment attention. Parce qu'on a confondu... ce droit, cette quête de droit, avec la stigmatisation. Et donc ça fait deux blocs, les stigmatiseurs et ceux qui ont le sentiment que tout part à la dérive. Et moi je pense, pourquoi j'ai accepté le CNR par exemple, l'idée de refondation, c'est parce que ces questions peuvent être énoncées, à mes yeux, en termes nouveaux, et dans lesquels tous ceux qui sont de bonne foi peuvent se reconnaître. À la question « Comment obliger les pays d'origine à reprendre les ressortissants qui sont partis ?» jusqu'à ce jour, personne n'a de réponse. On a fait des pressions beaucoup sur l'autre rive de la Méditerranée. Pour l'instant, le résultat n'a pas été probant. On a des questions de justice qui font qu'il est très long, même si ça a été raccourci sous l'impulsion du président de la République. Mais c'est très long de déclarer que quelqu'un n'a pas de droit.
Et puis il y a
quelque chose au fond.
Il y a la volonté politique. Quand Emmanuel Macron là, annonce encore un projet de loi pour 2023, et il se dit aussi favorable à l'accueil d'étrangers dans les zones rurales, donc pour les repeupler, disons les mots.
Non.
Direct, il faut choisir les mots peut-être casser une logique communautaire.
Il se trouve que je suis originaire, que j'ai grandi dans une partie rurale du pays. Les agriculteurs ne trouvent plus personne pour travailler à la ferme. Les éleveurs ne trouvent plus personne pour travailler. Et il arrive très souvent qui viennent me voir en disant « François, j'ai trouvé un garçon très bien, il est d'origine africaine, il est vaillant, il veut travailler, je ne peux pas avoir de papier pour lui. » Alors ma position, je vais exprimer quelque chose qui probablement est imprudent. On devrait exiger deux choses. La maîtrise de la langue, qui est la garantie de... la volonté de
s'intégrer,
de participer à un pays avec son mode de vie, et deuxièmement, la volonté de s'engager dans le travail pour gagner sa vie.
Vous dites les choses avec prudence, mais des choses qui semblent tellement logiques qu'on aurait pu faire et dire depuis
20
ou 30 ans.
Mais le problème est que depuis 20 ou 30 ans, on ne les lit pas parce qu'on fait de ce sujet un sujet absolument
qu'est-ce
idéologique.
Qu'est-ce qui vous choque dans le repeuplement ? Si on veut que des immigrés aillent dans les campagnes, c'est bien pour davantage repeupler, c'est ce qu'on dit, les zones rurales.
Non, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous avez une grande importance aux yeux de ceux qui vous écoutent ?
Non, encore, c'est pas dans le sens du poids.
C'est très important. Ce sont des rendez-vous qui sont suivis, et en partie parce que vous avez des personnalités qui plaisent à ceux qui vous écoutent. Si vous agitez le spectre d'un remplacement de population, vous savez ce que...
C'est l'idée du président de la République.
Vous savez ce que vous nourrissez comme...
Monsieur Bayrou, qui fait cette proposition ?
Nous sommes citoyens, vous et moi.
Oui.
Est-ce que vous ne stigmatisez pas vous-même immédiatement ? On pose la question et vous parlez de grand remplacement.
Non, ben c'est exactement...
Est-ce que ce n'est pas comme ça qu'on a fait taire les débats
depuis 30 ans ? C'est exactement ce que Sonia Mabrouk vient de dire.
Depuis 30 ans, est-ce que le problème n'est pas joué comme ça ?
Je répète ma position. Les peuples ont droit à leur identité et à des garanties sur la pérennité de leur identité. C'est un droit des peuples.
Un
droit des communautés. J'ai rapporté que il y a des pays, je crois qu'ils sont sur le continent africain, qui ont inscrit ce droit dans leur constitution. Moi, je crois à ça. Je pense que les Français n'ont pas envie de devenir indéterminés dans l'avenir. L'Union européenne, pour moi, n'a jamais été un creuset d'indétermination.
Si vous deviez qualifier les choses, qu'est-ce qui, aujourd'hui, menace l'identité française ? Soyons précis.
Des modes de vie, des modes de pensée, des modes de...
Oui, mais lesquels ?
Des modes de vie, des modes de d'irrespect de ce que nous sommes, de la laïcité par exemple, et qui ont besoin d'être réaffirmés.
C'est important ce que vous dites par rapport à l'école. Je voudrais vous faire réagir. Vous avez sans doute vu ce matin, c'est un sujet d'importance dans le journal du dimanche, un sondage effectué sur le thème de la Shoah. L'école a un rôle évidemment fondamental dans la transmission de la mémoire. Et ce sondage montre que certains jeunes relativisent la Shoah. On va le voir sur notre écran, on va voir ce sondage. Alors, vous parlez justement d'intégration, vous parlez plus largement aussi de partage, de ce qui est collectif. Il y a ce chiffre. Vous le voyez, des jeunes qui relativisent le cause. 10% considèrent la Shoah comme un drame parmi d'autres de cette guerre qui a fait beaucoup de victimes.
Oui.
Vous avez été ministre de l'Éducation.
Vous voyez qu'on tire quand même, par l'énoncé de la question, on attire une certaine réponse.
C'est vécu par des professeurs, Monsieur Bayrou.
Oui, non. Il arrive souvent au sein de l'Éducation nationale qu'il y ait des pressions pour qu'une partie du programme ne soit pas enseignée ou qu'il ne soit enseigné qu'avec des signes de désapprobation de la part de certains élèves et parfois de parents d'élèves. C'est vrai, ça existe. Pour autant, est-ce que c'est ce que nous vivons dans toutes les écoles du pays ?
Non, mais ça ne relève pas de l'anecdote.
Non, ça ne relève pas de l'anecdote, mais ça relève d'une vigilance qui doit être celle de l'institution scolaire. Les programmes sont établis nationalement et je n'ai jamais accepté l'idée qu'ils puissent être établis régionalement. Les programmes sont établis nationalement parce que ce sont des références qui vont faire un peuple, l'identité dont on parlait. Il faut de la fermeté.
Il faut. Et les professeurs qui se retrouvent seuls dans une classe, et ceux qui n'arrivent pas à faire cours, et ceux qui voient la pression des élèves, et ceux qui voient la pression des parents, et ceux parfois qui n'ont pas le soutien de l'institution, et ceux qui viennent et se succèdent sur nos antennes pour nous dire on n'en peut plus, mais on continue parce qu'on aime ce métier. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces professeurs ? Qu'est-ce que les gouvernements, les responsables leur disent ?
On leur dit que la période qui s'ouvre, pour moi, est une période où est peut-être la dernière chance de l'éducation nationale, parce que précisément... La place des professeurs n'a pas été respectée comme elle aurait dû l'être dans les dernières décennies.
La dernière chance avant quoi ?
La dernière chance avant un effondrement de l'éducation nationale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur deux sujets. Le premier de ces sujets, c'est la perception que nous tous, nous avons d'un certain effondrement de la transmission sur les disciplines, sur la langue écrite, sur la langue orale, sur les mathématiques, sur le calcul mental, qui est assez souvent oublié, on a la certitude ou le sentiment très, très appuyé dans beaucoup de familles que c'est plus comme c'était et de loin. J'emploie des mots simples exprès. Et deuxièmement, les classements internationaux sont d'une sévérité très grande pour la France.
D'une lucidité.
Oui, c'est une lucidité. Est-ce qu'on peut rétablir l'éducation nationale ? Je le crois. Et non seulement je le crois, mais j'ai donné dans une interview ce matin un délai. J'ai dit, moi je crois
qu'on
peut le faire en 4 ans.
Pourquoi ? Ce ministre a la vision nécessaire, M. Papa Ndiaye ?
Je le crois et je l'espère.
C'est deux choses différentes.
Et je le crois.
Vous l'espérez puisque vous le croyez ou vous le croyez puisque vous ne l'espérez ?
J'espère et je crois au même niveau.
vous reconnaissez tout autant à Papen Ndiaye qu'à Jean-Michel Blanquer.
Pardon ?
Vous reconnaissez tout autant à Papen Ndiaye qu'en Jean-Michel Blanquer.
Jean-Michel Blanquer a fait 2 ans formidables, avec une adhésion très profonde de l'institution scolaire et des salles de profs. Et puis quelque chose s'est cassé, quelque chose s'est perdu. Il faudrait être historien pour comprendre ce qui s'est passé exactement. Mais je le lui ai dit souvent. Et deuxièmement, l'institution a été terriblement centralisée, et notamment les questions pédagogiques ont été terriblement centralisées, et selon moi, ça n'est pas la bonne voie. Je dis, nous sommes assis sur une mine de compétences, d'inventions, par des profs qui font progresser leur classe, mais personne ne les repère.
C'est pas comme si vous êtes arrivé dans la politique ce matin.
Personne ne les repère.
Et pourtant, vous nous dites, on ne l'a pas fait. C'est incroyable.
Personne ne les repère. Personne ne se sert de leur expérience. C'est pourquoi je plaide pour la liberté pédagogique, le repérage des réussites et la propagation des méthodes inventé par ceux qui réussissent. Bien. Et je pense que si tel est le cas, et si on s'occupe de préparer aussi aux épreuves, aux disciplines qui font les classements internationaux, alors je pense qu'on pourra avancer. Mais ma certitude, c'est que c'est dans le corps enseignant, ses richesses, son inventivité, que se situe la clé du redressement de l'éducation nationale.
On va continuer à en parler.
Ce qui veut dire aussi que le traitement matériel, les salaires sont tellement bas qu'il faut que le pays s'en saisisse comme une priorité.
Vous avez employé le mot redressement. On a parlé depuis tout à l'heure de retraite, donc de société, d'énergie, de nucléaire, d'éducation, d'école. Redressement, sinon quoi ? Il y a un scénario qui fait trembler, si je puis dire, l'Élysée, Emmanuel Macron. C'est ce qui se passe en Suède. L'union des droites et la peur qu'un scénario comme celui-ci se déroule en 2027. Une courte pause, on en parle, Suède, Italie et d'autres en Europe.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
La suite et dernière partie de l'émission Le Grand Rendez-vous, évidemment avec mes camarades Mathieu Bock-Côté, Nicolas Barré. Notre invité ce dimanche, François Bayrou, beaucoup de choses ont été dites sur les retraites, l'énergie, l'école. C'est la méthode Bayrou qui a été énoncée avec quand même quelques coups de griffes sur la méthode actuelle. Et d'ailleurs, pourquoi vous ne leur dites pas directement, Monsieur Bayrou ? Il paraît qu'hier, ils vous ont cherché partout, vos amis de la Macronie, au congrès de Renaissance. Point de François Bayrou.
On a eu un petit problème d'organisation.
Il ne faut pas avoir une volonté de ne pas assister, pas être d'accord sur tout.
Pas du tout. On a le devoir de défendre des positions à l'intérieur de la majorité. Parce que si la majorité devient tout d'un coup un corps qui n'a qu'une vertu, c'est d'obéir, alors il sera évidemment l'objet.
Il y a un peu cette tentation dans la Macronie
cible. Non. En tout cas, c'est une tentation contre laquelle je me battrai. La majorité, ça se doit être des hommes au féminin et au masculin libres. Ce doit être des voix qui soient capables d'énoncer une pensée, des principes d'action, de sentir le pays pour l'entraîner. C'est ça la vocation politique. Et la vocation politique, elle indique, ou la vocation civique, elle dit pour moi quelque chose. Nous sommes co-responsables de l'avenir. Quel que soit notre métier, notre participation au débat public, que nous soyons dans l'opposition ou dans la majorité, nous sommes co-responsables de l'avenir. Et on a bien vu, dans cette affaire du nucléaire, les opposants et les majoritaires ont été co-responsables de l'avenir. Ils se sont succédés au pouvoir. Et en fait, ils ont suivi la même ligne de force. Et donc, cette capacité, je vais dire, de résistance à la facilité, cette capacité de ne pas perdre de vue une idée qu'on se fait de l'avenir et de la défendre.
Sinon quoi ? Hongrie, Pologne, Italie, Suède, avec l'alliance de la droite classique et de la droite dite radicale qui s'est hissée au pouvoir, là je parle de la Suède. Pourquoi, selon vous, François Bayrou, tous ces pays et leurs peuples opèrent à ces changements radicaux ? À cause de quoi ?
Parce que la mondialisation est un élément de déstabilisation sur la question que je posais du besoin d'identité et de sécurité. Ça n'est pas un monde sûr et il va l'être de moins en moins. Et beaucoup ont eu le sentiment que, au fond, ce à quoi ils étaient attachés était compromis par ce monde-là.
C'est juste un sentiment, oui, selon vous ?
Oui, mais regardez, la Suède, c'était le paradis de la social-démocratie, justement, d'une certaine forme de protection. Peut-être, et là, au contraire, ce pays bascule.
Peut-être que la social-démocratie, parfois, était triste. Les besoins matériels ne sont pas les besoins ou ne sont pas les seuls besoins essentiels de l'humanité. Il y a des besoins qui sont de l'ordre du spirituel, au sens le plus large du mot, philosophique, des besoins spirituels. Et il y a des besoins dans l'ordre de la vitalité. On a besoin de rire, on a besoin d'être ému. On a besoin d'accepter les vagues.
Vous ne pensez pas que c'est un peu plus prosaïque en Suède ? C'est-à-dire un bouleversement démographique assez rapide, une criminalité assez grave, des émeutes qui se multiplient ?
J'ai pas eu le sentiment que la Suède était dans un bouleversement démographique.
La campagne en Suède n'a porté que sur cela. Mais délinquance, immigration, insécurité.
Donc, je répète. Quand vous vous adressez à un pays, vous devez être capable de comprendre ses besoins et de les exprimer. Ça manque quelquefois à la capacité d'expression. Et je répète que selon moi, le besoin de garantie dans l'identité, vous n'allez pas être... L'avenir, ça ne signifie pas que vous devez abandonner ce que vous êtes. L'avenir, ça veut dire que vous pouvez sublimer ce que vous êtes, le porter vers l'avenir. J'ai entendu, mais vous m'interrogez sur l'extrême droite, j'ai entendu des phrases qui disaient le but de notre courant politique serait d'empêcher l'extrême droite de...
D'arriver au pouvoir en 2027.
Ce n'est pas du tout ma sensibilité.
Ah, mais c'est celle de votre... Oui. De la majorité.
Mais je réclame le droit de
la différence,
dénoncer ce que je pense. Notre travail, c'est de faire un pays épanoui, aussi prospère que possible pour pouvoir assurer son contrat social et de lui donner des raisons de vivre. Pas de perpétuellement désigner des forces que j'ai combattues toute ma vie et que je crois avoir raisons de combattre. Pas de faire des extrêmes l'obsession de la vie politique. Des extrêmes, j'emploie le mot au pluriel.
François Bayrou, mais pourquoi ?
Notre travail... C'est le peuple français.
Mais pourquoi il y a eu cette obsession ? Dites-le, ça a permis aussi...
Notre travail, c'est notre nation.
Je comprends bien.
Notre travail, c'est le cadre européen dans lequel la nation, sans lequel la nation ne peut pas vivre. Et notre travail, c'est l'équilibre mondial. Notre travail, c'est la vie réelle,
chose, François Bayrou.
Pas le combat.
Vous dites, arrêtez de sortir l'épouvant. Vous dites à Emmanuel Macron.
Non,
bah, écoutez,
je dis à vous.
Pardonnez-moi.
Vous avez fait de ce sujet votre interrogation.
Je suis en train de vous poser la question sur ce qui se passe dans des pays...
Vous dites qu'il y a quelque chose qui se passe qui est effrayant en Pologne, dans les pays... en Suède, en Italie.
Oui.
La situation suédoise et la situation italienne ne sont pas les mêmes.
Très bien, mais je vais quand même continuer ma question parce qu'il me semble que c'est quand même...
Je finirai ma phrase et puis je répondrai.
Il a dit qu'il y avait le danger de l'extrême droite et qu'il s'inquiète de ce scénario en 2027. Vous nous dites... Il ne suffit pas d'agiter cet épouvantail, il faut proposer autre chose. Est-ce que c'est bien ça ? Est-ce que j'ai bien décodé le Bayrou ?
Il y avait un danger électoral On était devant une élection. Et là, dans une élection, il faut choisir si on favorise ou si on combat, si on arrête ou si, au contraire, on promeut. C'est ça, une élection. Mais dire, dans la période où nous entrons, notre seule obsession doit être les extrêmes, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que c'est leur donner un coup de booster, comme on dit en franglais, formidable. Si vous faites,
c'est bien la question que je vous pose.
Si vous faites d'une force politique...
Est-ce que le gouvernement n'a pas besoin de l'extrême droite et des extrêmes pour prospérer ?
Si vous faites d'une force politique le sujet central des médias, des discussions, des dialogues, mais vous la favorisez formidablement. Je dis, moi, au contraire, nous sommes là pour assurer aux Français, et assurer aux Français aussi comme nation, dans le cadre qui nous permet de vivre en Europe et dans l'équilibre du monde, assurer aux Français que leur avenir est pris en charge et que dans cet avenir, on n'oublie pas les raisons de vivre qui sont...
Mais le mot de conclusion.
Est-ce que ce n'est pas peut-être une des faiblesses actuelles de la majorité ? C'est qu'elle s'est construite comme un front anti-extrême, comme un front républicain contre les extrêmes d'un côté et de l'autre. Est-ce qu'en dernière instance, ce n'est pas la faiblesse des dernières législatives et même du président de la République ?
Je ne crois pas. En tout cas, je n'ai jamais aimé l'idée de front, quel que soit le front.
Même républicain ?
Non, je pense que c'est pas une bonne chose que de considérer que notre seul point commun est d'être contre. Alors, il y a des moments historiques, quand c'est le nazisme, quand c'est des menaces de cet ordre. Il y a des moments historiques dans lesquels on doit s'engager. Mais dans la mission des politiques, qu'ils soient au gouvernement ou représentants à l'Assemblée nationale dans le débat politique, leur mission est de s'intéresser aux problèmes les plus profonds que les gens rencontrent.
Un bon entendeur.
Et donc, disons une phrase, parce que j'ai commencé à dire que la Suède et l'Italie, la situation n'était pas la même. En Suède, l'extrême droite est dans la coalition et pas au pouvoir. En Italie, l'Italie, c'est chez nous. Nous sommes menacés, en effet, d'avoir l'extrême droite directement à la tête du pays. C'est un changement qui est plutôt très important et qui va fragiliser l'Union européenne.
Et donc,
parce que l'Union européenne, ces dernières années, c'était France, Allemagne, Italie.
On arrive à la fin.
Et là, on a un risque et une menace sur l'avenir. Donc, intéressons-nous aux questions qui font que les gens ont envie de vivre et de vivre ensemble.
L'envie d'avoir envie de vivre ensemble. Merci François Bayrou d'avoir été notre invité ce dimanche. Bon dimanche à vous, à nos téléspectateurs et auditeurs, évidemment à mes camarades Nicolas Barré et Mathieu Bock-Côté.